Vertigo. 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 Sur la première.
Sur la première. Sur la première.
Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire.
Vertigo de 16h30 à 18h sur la première.
Bonjour Didier Rueff.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes en duplex depuis le studio de Lugano, de nos confrères de la RSI. On va parler donc avec vous de cette somme gigantesque, très lourde, 2,5 kg, je le rappelle, Homo Helveticus, 30 années de reportage photographique en Suisse, 170 photos sélectionnées. C'est un travail qui, je le disais également tout à l'heure en introduction de l'émission, fait fortement penser à Recycle. Recycle, c'était un livre également très très important pour vous, qui montrait les 20 années que vous aviez passées à photographier la planète. 30 ans pour celui-ci, j'imagine que le prochain ça fera 40 années, donc plus ou moins de travail accumulé. Ces reportages, vous les avez réalisés partout en Suisse. On peut y voir beaucoup de choses, on peut y voir un échiquier sur un crâne rasé. C'est la première photo, celle qui ouvre le livre. Des dromadaires attachés à des parcs-mètres, une maison sous un échangeur d'autoroute, un glacier sous des bâches. Et vous dites que c'est un témoignage à la première personne. J'ai le sentiment qu'il ne pouvait pas vraiment en être autrement.
D'une quelque manière, c'est une grande recherche, une quête d'identité. Ayant grandi à Genève, dans cette ville du bout du lac, avec un grand-père français, je dois dire que pendant près de 25 ans, la Suisse m'était totalement étrangère. J'avais un passeport suisse, mais je ne la connaissais pas. Mes yeux étaient rivés vers la France et les quelques courses d'école en Suisse romande ou au Tessin m'ont légèrement entrouvert les yeux. Ce n'est qu'à mon retour des États-Unis en 85, en 87 plutôt, que j'ai commencé à me dire qu'il était temps de regarder ce pays qui m'était inconnu.
Alors tout de suite, vous démarrez votre travail dans le reportage photographique et à regarder le livre, à voir la quantité de photos que vous y présentez. Effectivement, vous avez parcouru tous les coins de ce pays et vous vous êtes intéressé à la fois aux villes et aux campagnes. Et ce qu'on se disait aussi avec Antoine Drou tout à l'heure lorsqu'on parlait de votre livre, c'est qu'il y a toujours cette distance, c'est jamais moqueur. Il y a toujours bien sûr, pas toujours, mais parfois de l'humour, de l'ironie, une forme de distance, mais une juste distance. Ce qui m'amène à la question du choix des photos. Que vouliez-vous montrer au travers de la sélection de ces près de 170 photographies?
Dans les grandes lignes, ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de comprendre qui nous sommes. Comment se fait-il que ce petit pays si différent, puisque là je vous parle depuis Lugano, c'est si proche et si loin à la fois. Les Alpes nous séparent, il y a un grand fossé linguistique, encore plus marqué avec la Suisse alémanique. Comment se fait-il que tous ces Suisses sont ensemble? Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de partir un peu à la recherche de cette suissitude à travers les différentes fêtes qui existent aux quatre coins du pays. Et puis surtout, cette distance que vous disiez, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire ce que je fais toujours, c'est-à-dire photographier l'homme, la femme, l'être dans son quotidien, dans sa vie, et de l'approcher au plus près, avec, c'est vrai, avec ironie parfois, mais avec aussi beaucoup d'amour, avec beaucoup de tendresse et d'empathie.
Ce qui m'a aussi beaucoup frappé, Didier Rueff, c'est qu'il y a beaucoup de photos qui sont prises sur la plaine du Rütli à l'occasion des festivités du 1er août. C'était nécessaire, dans ce livre sur la Suisse, sur ce qui nous lie, de beaucoup documenter cette prairie mythique.
Disons que la préface est faite par l'historien Thomas Meissen, qui a revisité la Suisse et tous ses mythes. Il s'avère que la prairie du Rütli est un des mythes fondateurs de la Suisse. Donc il m'a semblé nécessaire d'abord d'y aller, de la découvrir, rien de tel que le 1er août, c'est le meilleur moment. C'est là où on y retrouve les passionnés, les fanatiques, et puis ceux qui, comme moi, s'interrogent un peu sur qui nous sommes. Donc la prairie m'a offert beaucoup de... D'abord, c'est un petit champ perdu au milieu des montagnes, au bord du lac. On y accède difficilement la première fois.
Que en bateau.
J'y suis allé à pied. Et non, on peut y accéder à pied depuis le haut, ou en bateau. Donc j'ai fait les deux variantes. Et j'y suis retourné à différentes occasions parce que c'est un lieu qui est intéressant visuellement.
Qu'est-ce que, au-delà de l'intérêt visuel qu'il a, vous y cherchiez lorsque vous arriviez là-bas avec votre appareil photo, Didier Rueff?
Ben, j'y cherchais des vrais Suisses, des convaincus, qui sont là parce que ça a du sens. Et il y a certaines images qui sont terriblement fortes. Il y a cet homme avec ce t-shirt à l'effigie de Guillaume Tell. Il y a l'ensemble des drapeaux sur son t-shirt. Derrière, il y a des militaires. À la main, il tient un petit sac suisse avec une corne. Il fait le fameux signe de que font les conseillers fédéraux quand ils prennent fidélité. Et donc c'est une image en décalage, mais terriblement forte. Ensuite, il y a une autre scène qui est assez folle, parce qu'il m'a fallu des années, presque 20 ans, pour comprendre en fait ce qui s'y passait. C'est que par un père s'agenouille, il a ses deux enfants autour de lui, et il se sert du drapeau comme d'un fusil, et ouais. il tire, et on voit le drapeau, on voit l'homme agenouillé, et il tire vers une cible hypothétique. Or, il s'avère que, chose que je ne savais pas, tous les ans, au mois de novembre, il y a le fameux tir historique du Grütli. À ce tir viennent 1000-1200 hommes et femmes et adolescents de toute la Suisse, ils viennent tirer contre des cibles qui sont posées sur le haut de la montagne. Donc en fait, là où l'homme s'est agenouillé en novembre, une trentaine, par vague de 30, hommes, femmes et enfants viennent tirer. Et ce grand rassemblement, qui est d'ailleurs aussi illustré dans les livres, est assez fascinant.
Page 72, hein, l'illustration avec tous les fusils d'assaut alignés.
Pointés vers la montagne.
Qui visent, moi, il y a cette question qui me fascine que vous avez soulevée. J'allais chercher un vrai Suisse. Si vous aviez trouvé, il faut que ça fasse la une de tous les journaux de tout le pays, parce que ça n'existe pas, un vrai Suisse. Ou je reformule,
non.
C'est quoi un vrai Suisse?
Un vrai Suisse, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui vivons en Suisse. Finalement, c'est pas très important d'être né ou d'être ici. C'est d'y vivre. Et puis petit à petit, on acquiert une espèce de mode de vie. Parce que finalement, la Suisse, ce qui est assez fascinant, c'est cette diversité qui est là. Chaque canton a ses us, ses coutumes, voire sa langue, ses approches. Moi, qui partout dans tous mes actes, c'est marqué Genevois, très bien, je suis Genevois, mais j'ai un acte d'origine dans le canton de Berne, où depuis 200 ans, il n'y a pas un seul de personne de ma famille qui n'y vit. Étant Genevois, je me disais, tiens, je vais pouvoir postuler pour des bourses de photographie à Genève. Eh bien non, on me le refuse parce que je ne paye pas mes impôts à Genève, mais au Tessin. C'est le paradoxe. La Suisse, c'est un pays totalement décentralisé, et avec quand même un centre qui gère, et puis cette fameuse culture du compromis. Et ça, c'est assez étonnant.
Le compromis qui ne s'applique pas donc aux bourses attribuées aux photographes, en tout cas dans le canton de Genève. C'est pas le cas dans le canton du Valais, je vous le signale, si par hasard vous faites une demande.
Ah, d'accord.
Je vous le dis.
Mais c'est ça qui est fascinant, parce qu'à chaque canton, il y a une autre idée, il y a une autre vision.
Alors moi, ce qui me frappe effectivement, c'est d'abord le nom Homo Helveticus, et on comprend bien à vous lire et à regarder vos photographies, Didier Rueff, que ce n'est évidemment pas, c'est pas une espèce homogène. On peut aller hors des villes, on peut rester dans les villes. Chaque mètre carré a une proposition différente de ce que pourrait être l'Homo Helveticus. Et en revanche, ce qui est très frappant, c'est cette question du folklore. Et le folklore, à regarder vos images, vos photographies, il est tout autant chez le banquier zurichois, qu'on reconnaît instantanément, que chez le chasseur de chamois, qu'on reconnaît lui aussi tout aussi instantanément.
Mais ce que je pense d'assez fascinant, c'est que ce livre, il a une double lecture. En tant que Suisse, on peut y comprendre mille et un messages qui sont plus ou moins diffus, plus ou moins cachés, qui sont là, mais qu'on a intégrés. En tant qu'étranger à la Suisse, on découvre un pays avec cette représentation, ces Alpes, mais aussi l'utilisation des Alpes dans les décors, tout ce folklore qui existe, qui est là, qui est quand même important, et puis cette diversité entre les villes et les campagnes. Mais fondamentalement, je pense que les Suisses vont comprendre les messages inhérents cachés dans le livre.
On va se tourner du côté du collectif Bern East Überall. Je ne sais pas si vous les connaissez, Didier Rueff. Ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'un reportage photographique pour vous. Parce que là, c'est un agglomérat, une congrégation d'auteurs, de musiciens qui se réunissent ponctuellement pour produire. Eh bien, voici l'homme, tout simplement.
Der Mensch l'homme. L'homme, il chante, il marche, il cuisine du risotto, il vole, il regrette. Il mange des noisettes, il lit des livres, il fume des cigarettes. Il court, il regarde par la fenêtre. Il va en voiture, il fait du bruit. Il boit du pastis et du café. Il dort, il rêve, il fait la vaisselle, il est en grève. Il voyage, il achète des poules, il fait des cadeaux, il mange du gâteau. Il est furieux, il fait des protocoles, il accuse et il pleure. Il oublie, il met des journaux dans les chaussures. Il fait du fromage, il téléphone, il souffre, il aime les frites. Il dépose l'argent dans le casino, il aime les vaches, il va vite. Il raccroche quand il sonne, il est pressé, il change les armoires du lieu. Il se grise, il a le blues, il regarde la Tagesschau, il tricote. Il met de la sauce dans la salade, il fait l'amour. Il regarde des revues chez le dentiste, il confesse, il s'éteint. Il paye des factures, il tue, il taille le crayon, il fait des accidents. Il est ni ange ni bête, il porte des tables par la vie et des lunettes. Il réfléchit, il donne des breaks aux chats, il regarde, il ne voit pas. Il coupe des arbres, il salue le voisin, il s'oublie. Il fait des siestes, il écrit et parfois il rit.
C'était Arnaud Kamenisch, l'homme du collectif Bern East Überall. Ce spoken word, c'est comme ça qu'on appelle cela en anglais, se termine par « et parfois il rit ». On rit beaucoup dans votre livre.
Parce que c'est bon pour la santé.
Parce que c'est bon pour la santé d'une part, en effet, il est bon de le rappeler, vous avez raison Antoine, mais aussi parce qu'il y a votre regard de photographe aiguisé qui sait saisir l'instant précis. Ce n'est pas que dans ce livre-là, Didier Rueff, ce n'est pas que dans Homo Helveticus. Il suffit de se rendre sur votre site internet pour voir que vous avez vraiment la pratique de la street photographie, la photographie instantanée, la photographie de rue, cette capacité de saisir l'instant. Parfois, on se demandait s'il y avait des mises en scène. On voit un homme, par exemple, traire une chèvre. La pose est tellement parfaite qu'on pourrait croire à une mise en scène, mais ce n'en est pas une.
Non, il n'y a aucune mise en scène parce que je suis incapable de mettre en scène. En fait, je saurais pas quoi mettre en scène. La vie est beaucoup plus belle, beaucoup plus riche et beaucoup plus diverse. Elle se charge elle-même de mettre en scène ces scènes. Il s'avère qu'il faut juste avoir la patience et la volonté de les voir et de les trouver. Donc cette quête, elle se fait tous les jours. Elle est là, elle est présente et tous les jours il y a ce genre de scène qui se présente à nos yeux.
Mais alors, est-ce que ça veut dire que vous partez tous les jours, quoi qu'il arrive, avec un appareil photo en bandoulière, ou est-ce que vous partez dans l'idée de faire des photographies ?
Non, je pars dans l'idée de faire des photographies. Il s'avère que j'ai toujours un appareil photo avec moi, dans ma poche, etc. Souvent, je l'utilise pas, mais je pars quand je cherche ces images. C'est une cherche, en fait. C'est un peu comme la pêche. Il faut aller à la recherche du poisson et faire en sorte qu'il approche et qu'on arrive à l'attraper. Donc parfois c'est pas tous les jours facile, hein, je dois dire, de se dire bon bah j'y vais, je cherche et je laisse le temps aller. Finalement c'est une longue quête dans laquelle il faut se laisser surfer sur la vague, voilà.
Un pêcheur, il a ses coins comme celui qui va aux champignons. Vous avez vos coins aussi pour la photographie?
Non, alors moi je vais dans tous les coins. Je veux dire, je suis un peu limité. Je dois dire que marcher à côté d'un photographe, c'est marcher à côté d'un fou, parce que finalement j'avance, je recule, je décide d'aller à droite, je décide d'aller à gauche. Il y a pas de limite. Donc une porte s'ouvre, je vais rentrer. On me dit tiens c'est intéressant, je vais y aller. On me parle d'une chose, ben je vais aller regarder. C'est l'ouverture en permanence. Hein. Donc c'est une quête assez illimitée, mais assez fantastique finalement. Et c'est ce qui m'a dès le début poussé à devenir photographe, parce que plutôt timide à l'origine, j'ai un merveilleux outil qui me permet d'approcher les gens.
Comment est-ce que les gens, vous les approchez justement? Parce qu'il y a des photos qui sont très frontales, très claires, on voit bien qu'on vous regarde, les gens savent qu'ils sont photographiés. Comment est-ce que l'on fait fi de sa timidité? Est-ce que vous arrivez, vous déclenchez, vous repartez, vous prenez le temps de parler avec les gens?
Mais il y a toutes les situations. Ça dépend. Il y a des scènes qui sont très rapides, qui sont là, instantanées, et il faut juste prendre l'appareil photo et les faire. D'autres, il y a une approche. On parle, on discute. Les gens nous voient. Moi, je ne suis jamais caché. Les photos sont faites de manière très proche. Ce sont des focales très courtes, donc ils savent que je suis là. Et en général, je ne prends pas juste une photo. Donc petit à petit, il faut établir une espèce de rapport de confiance. Et c'est un peu le don contre don. Donc voilà.
Vous avez fait le choix du noir et blanc. Je ne sais pas si on l'avait dit en début d'émission, Didier Rueff. Je dis bien le choix du noir et blanc. Qu'est-ce que cela vous permet, en fait, le noir et blanc? Pourquoi est-ce que vous faites abstraction de la couleur? Est-ce que c'est pour que l'œil ne s'égare pas dans l'image? Est-ce que vous voyez la photographie en noir et blanc?
Moi, j'aime à dire que j'ai grandi dans les années 60 avec une télé en noir et blanc. Alors, est-ce qu'elle m'a formaté le regard? C'est un peu un clin d'œil. Mais d'une certaine manière, ce que j'aime dans le noir et blanc, c'est justement ce que vous venez de dire, c'est cette distanciation avec le réel. C'est-à-dire qu'on élimine les couleurs, on va à l'essentiel. Et moi, dans ma photographie, ce qui m'intéresse, c'est le cœur de l'homme, c'est Der Mensch, comme disait très justement le collectif Bernice Überall. Voilà, la photographie est tuberale et moi ce qui m'intéresse c'est d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel, le noir et blanc, eh bien me permet de dissocier ces couleurs qui nous éloignent de la réalité et puis d'aller toucher et affronter la réalité au plus proche des gens et du monde.
Antoine.
Oui, quand Pierre-Philippe Kader m'a montré ce superbe livre cet après-midi, ben voilà, des Suisses, la Suisse photographiée en noir et blanc dans un superbe ouvrage, j'ai dit ah tiens, ça me fait penser à Marcel Imsand. Puis Pierre-Philippe m'a dit bah non, c'est quand même beaucoup plus péchu. Enfin bref, comment est-ce que vous revendiquez un autre regard de cet autre grand photographe suisse évidemment qui lui a aussi beaucoup documenté notre pays et cette Suissitude?
Alors je dois dire que moi j'ai jamais rencontré Marcel Imsand, mais j'ai bien connu son fils, Jean-Pascal, qui était à Zurich en même temps que moi. Puis quand je suis rentré à Genève, il est venu habiter pas très loin. Puis malheureusement ensuite il nous a quittés. Donc, mais il y a un travail de Marcel Imsand qui m'avait particulièrement frappé, c'était l'histoire des deux frères qui vivaient à la montagne c'est pas une alpage, une ferme, je me souviens plus exactement, mais je sais que ce travail-là m'a beaucoup marqué. Et aussi l'histoire du couple, qui était une histoire très forte, très intense, très humaine. Et puis il y a un autre photographe qui est suisse, mais qui n'est plus en Suisse, c'est Robert Frank, bien sûr, qui lui, le travail sur l'Amérique, d'une certaine manière, m'a aussi poussé à me dire, bah tiens, je vais aller moi découvrir ce pays dans lequel je suis né, dans lequel je n'ai pas vraiment compris ce qui s'y passait.
Oui, et puis est-ce qu'il y a d'autres de formidables, c'est que vous photographiez autant une séance de suspension, hein, c'est les gens qui se mettent des crochets dans la peau, ça se passe en l'occurrence à Ried, hein, là où vous avez pris le cliché en 2016, et puis la page précédente, c'est la fête des arquebusiers à Genève, également en 2016, c'est vraiment ce contraste de ce pays, en fait, c'est ce que vous nous dites depuis une vingtaine de minutes qui est assez frappant.
Ce que j'ai voulu, c'est aller vraiment aux quatre coins du pays, mais aussi aux quatre coins des réalités, de ce c'est que ça, vivent hein. les gens, de ouais. ce que sont les Suisses, que ça aille du tertiaire au secondaire, au primaire, hommes, femmes, enfants, et qu'on l'espèce de fil rouge qui guide le livre est une construction que j'ai commencé depuis le début, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait une image intéressante, une image en décalage, une image qui me séduisait, je la mettais dans une boîte, puis petit à petit, il y en a une, deuxième, troisième, puis au fil et à mesure, j'ai construit ce fil rouge, cette espèce de voyage interne, profond, personnel, qui démarre avec cette fameuse tête dont vous parliez, cet échiquier. Cette tête, c'est la tête de mon ami d'enfance, dans l'immeuble dans lequel nous avons grandi, et c'est un peu, c'est cette quête de ce parcours dans ce pays, où fondamentalement, j'avais pas l'intention de vivre, parce que quand je suis parti à New York, mon idée, c'était pas de revenir en Suisse. Il s'avère que j'y suis revenu, il s'avère que j'y vis. J'ai beaucoup voyagé à l'étranger, c'est vrai, mais quand j'y reviens, je trouve qu'avec de prendre un certain décalage et de regarder le pays m'a fasciné, me fascine encore.
Sur la première, c'est Vertigo jusqu'à 18h.
Didier Rueff, avec nous, toujours en duplex depuis les studios de nos confrères de la RSI à Lugano. On s'est posé beaucoup la question tout à l'heure de ce qu'était la Suisse, de qui étaient les Suisses, et vous y avez répondu. Moi, ce qui me frappe, au fond, en regardant ce livre, c'est qu'on pourrait se dire qu'il y a un pays réel, qu'il est dans vos photographies. Et il est beaucoup plus là dans vos photos que dans l'imaginaire des tenants d'une Suisse immuable et immortelle, non ?
Alors là, c'est une question compliquée. Hein. Écoutez, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire des photographies dans des lieux objectifs avec un regard totalement subjectif. Donc c'est ma vision de la Suisse, celle que je sens, que je crois comprendre en cette fin de XXe siècle et ce début de XXe siècle. Et je pense que c'est une Suisse, oui, très réelle, très qui existe, qui vit plus ou moins bien.
C'est une Suisse aussi très consumériste, parce que la photo de couverture de votre livre, elle est totalement emblématique. Elle a été prise lors de l'Expo 02, c'est à Bienne. On y voit deux visiteurs de l'Expo assis dans ces chariots géants, de ces caddies de supermarchés géants dans lesquels on pouvait s'installer et puis parcourir tout un espace d'exposition, un peu comme en prison d'une certaine façon.
Oui, dans la prison de la grande consommation. On vit dans le centre du capitalisme mondial. On a les banques les plus puissantes, ou parmi les plus puissantes. On a des multinationales fortes. On est un pays pas du tout social. Voilà, c'est un pays dans lequel, je pense, il est de plus en plus difficile à vivre, puisque les classes moyennes tendent à s'appauvrir et il y a une très forte disparité sociale. Mais nos élites ne veulent pas vraiment s'en rendre compte et je pense que la Suisse est un pays difficile, vraiment difficile, compliqué, surtout quand on a des enfants. Voilà, c'est un pays peu humain d'une certaine manière. C'est un pays dans lequel il faut fonctionner, sinon on part vite à la rue. Et je dois dire qu'avoir fait plusieurs reportages sur ces gens qui s'égarent, c'est assez triste dans ce pays ultra capitalisé et richissime.
Est-ce que justement ce regard que vous avez aujourd'hui sur la Suisse, vous l'avez parce que au cours de vos très nombreux voyages à l'étranger, vous avez été confronté à d'autres types de sociétés, évidemment parfois beaucoup moins riches, ce qui peut-être vous a donné l'occasion au retour de regarder votre pays d'un œil différent ?
Ben, tout à fait, je dois dire que moi j'ai toujours été frappé par par les disparités sociales et de richesse. Donc, ayant grandi dans ce pays au confort absolu, au bonheur relatif, où tout fonctionne, parce que finalement, quand je rentre des quatre coins du monde, c'est avec plaisir que je retrouve cette bonne douceur et nonchalance helvétique, où tout fonctionne. C'est agréable quand on a dû parfois lutter pour juste de l'électricité, de l'eau propre. Ici, tout fonctionne, tout est là. En permanence, mais tout est là avec un prix considérable. Donc bien sûr, ce double regard m'a aiguisé les yeux et d'une certaine manière, c'est ce que j'ai voulu essayer d'aller comprendre dans ce mirage helvétique qu'on veut bien nous vendre, espèce de bonheur.
Est-ce que le mirage, il est le même partout ? Vous parlez du mirage helvétique, j'ai pas le sentiment que ce mirage helvétique soit équitablement réparti dans tout le pays. Vous vivez au Tessin, nous parlons, nous à Lausanne, vous à Lugano. On peut voir les photographies dans votre livre qui présentent absolument toutes les régions de Suisse. Et on voit, parce que ça se voit, on voit bien que le miracle, il n'est pas équitablement réparti absolument partout.
Non, mais il y a d'immenses disparités sociales. Je veux dire, les conditions au Tessin, par exemple, les prix à la Migros sont les mêmes qu'ailleurs en Suisse. Les salaires sont plus bas. Les prix maladie, sont exorbitantes. Ça, on le sait tous. Et il y a des disparités sociales qui sont rapidement visibles. Il suffit de sortir un peu des centres, dès qu'on sort un peu du centre de Zurich et qu'on va dans les agglomérations environnantes, on comprend vite qu'il y a des chutes. C'est pareil à Genève. À Genève, il suffit de sortir pour aller vers le Lignon, vers les Avanchais, pour comprendre qu'il y a des disparités sociales très fortes.
Oui, mais en même temps, il n'y a quand même pas autant de SDF que dans d'autres pays. Il me semble qu'on n'a pas de gilets jaunes dans les rues de Suisse. On a un système social qui fonctionne, un filet social qui fonctionne quand même.
Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait un filet social qui fonctionne aussi bien parce qu'il faut peu de choses pour partir à la dérive. Ne payez pas votre loyer pendant un mois ou deux. Commencez à dire que vous ayez des problèmes et vous allez vite vous retrouver un peu en déroute. Sans parler des cas, des gens qui perdent leurs emplois à l'approche de la cinquantaine, c'est difficile. Hein, c'est. Et puis les couples qui se séparent, les femmes qui se retrouvent toutes seules avec leurs enfants. Je suis pas sûr que le filet social soit si harmonieux qu'on veut bien le vendre.
Ce travail que vous faites avec Homo Helveticus, c'est aussi pour dire ça, c'est montrer, gratter un peu le vernis helvétique et voir un peu ce qu'il y a derrière, en creux, c'est ce qu'on peut comprendre?
Mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer un regard sur ce qu'est la Suisse aujourd'hui, avec ses bons côtés, ses moins bons côtés. Oui, bien sûr, c'est aller gratter la surface de l'écorce helvétique. Pour toujours aller un petit peu au centre. Moi, ce qui m'intéresse, mais peut-être que ça vient de ces années d'études que j'ai fait. Le titre Homo Helveticus, il ressort de 7 ans de latin que j'ai fait, qui ont fait de moi un humanisme, hein, du certain. Moi, je voulais devenir scientifique, je suis devenu un humaniste. Et ensuite, j'ai étudié l'économie. Donc, l'économie, je l'ai quittée parce que fondamentalement, j'y ai pas compris grand chose. Et je me suis dit qu'en allant me confronter à la réalité, là, au cœur de la vie, je vais plus la comprendre. Donc voilà, aujourd'hui, je mélange un peu tout ceci et j'ouvre les yeux sur la réalité du monde qui nous entoure.
L'économie que vous avez apprise, elle était dans les livres. Bon, vous avez quand même obtenu votre diplôme.
Difficilement. J'ai beaucoup souffert.
Ouais, obtenu ce diplôme. Lorsque vous partez photographier à travers le monde, là, vous êtes confronté à la réalité. Il y a ce qu'on vous explique sur le papier et puis il y a la réalité du monde. Et c'est là que il y a cette distorsion qui fait de vous le photographe humaniste que vous êtes aujourd'hui.
Mais moi, ce que j'aime, c'est justement aller me côtoyer, aller me frotter à la réalité, écouter les gens qui me parlent de leur vie, de leur monde, de leur culture. Je pars avec très peu de j'essaie de pas trop lire à l'avance. Moi, j'aime que les gens me racontent leurs histoires, si elles sont vraies, si elles sont fausses. Dans le fond, c'est pas très important, mais petit à petit, essayer d'acquérir une espèce de perception, parce que fondamentalement, aux quatre coins du monde, on est tous un peu pareils, on a tous un peu les mêmes problématiques, et essayer de comprendre la société. C'est déjà assez compliqué.
Vous restez avec nous, Didier Rueff. On va maintenant s'intéresser avec Antoine Drou à ce que sera l'année 2019 des médias, ce qui nous permettra peut-être aussi après de parler de votre statut de photographe indépendant.
Vertigo. Média.
Et pour cette dernière chronique de l'année pour vous dans Vertigo, Antoine, eh bien, c'est l'occasion de décortiquer quelques tendances médiatiques lourdes qui s'annoncent pour 2019.
Vous avez aimé les fake news? Eh bien, vous allez adorer l'ère post-news. Des deux côtés de l'Atlantique, celles et ceux qui analysent le journalisme font remonter ce phénomène de post-news, de repli sur soi qui conduit à un évitement de l'information. Alors, cet évitement de l'information peut être volontaire. Des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs en ont tout simplement marre. Ils s'estiment saturés de mauvaises nouvelles. Ils tournent le dos à une information perçue comme lointaine, partiale et de moins en moins pertinente. Et puis, il y a ceux qui n'ont juste plus le temps de s'informer. Cette partie du public est sursollicitée par les réseaux sociaux, les discussions en ligne, les jeux vidéo sans fin, les séries et films à gogo. C'est l'économie de l'attention. En plus, volontaire ou pas, ce phénomène d'évitement de l'information, il survient au pire moment. C'est en tout cas la conviction d'Éric Scherrer, le directeur de l'innovation et de la prospective à France Télévisions.
C'est ça qui est inquiétant. Nous sommes dans une période où des mouvements populistes, voire extrémistes, sont en train de faire l'agenda. Et au moment où, parallèlement à cette émergence de mouvements populistes, on voit apparaître un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui a pris beaucoup d'ampleur, c'est celui de la désinformation, autrement dit des fake news. Et les deux sont liés. Et la conjonction d'un repli sur soi et finalement d'une réalité où on ne distingue plus ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai devient très compliqué.
Alors, quelles sont les pistes qui se dessinent, Antoine, pour éviter cette ère de la post-news?
Dès 2019, il faudra davantage éditorialiser, faire plus de choix en amont, faire moins, mais faire mieux. De toute façon, le public aujourd'hui n'a plus le temps de tout lire, de tout écouter, de tout voir. Les médias doivent aussi développer de nouvelles façons de distribuer leur contenu. Alors, je parle pas ici du papier ou du flux TV et radio, ça on sait comment faire, mais plutôt des contenus numériques. Nous devons identifier des communautés, des prescripteurs, pourquoi pas créer par exemple des newsletters thématiques. Aujourd'hui, les médias sont comme les magasins qui se font hacher menu par le commerce en ligne. Ils ne peuvent plus se contenter d'avoir une vitrine alléchante. Ils doivent aller chercher, chasser leur public.
Oui, mais alors où ?
Sur Facebook, par exemple.
Ah bon, vraiment sur Facebook ? Parce que Facebook, oui. C'est plutôt beaucoup de désinformation aussi, évidemment, et le réseau social qui met en avant plutôt des contenus de proches qu'on se partage parmi que du contenu de médias vérifiés.
Eh ben, raison de plus, Pierre-Philippe, pour y aller. Quoi de mieux que des médias crédibles, précis, justes pour lutter chez l'ennemi, non, j'aurais pas dû le dire, mais chez Facebook, contre la désinformation. Quoi de mieux que Facebook pour entrer en contact avec un public, celui qui s'y trouve ? Pas pour multiplier les clics, mais pour écouter, pour expliquer, pour créer des communautés. Nathalie Pignard-Chenel est professeure de journalisme numérique à l'Université de Neuchâtel.
Les médias peuvent difficilement complètement se couper de Facebook. En revanche, peut-être ce qui a été une prise de conscience, notamment dans la dernière année 2018, quand Facebook a décidé de tourner un petit peu plus le dos aux médias. La prise de conscience, c'est peut-être que les médias peuvent utiliser Facebook dans leur intérêt pour davantage créer une communauté, créer un lien direct avec son lectorat, pour faire valoir une ligne éditoriale spécifique et non pour répondre à l'injonction de Facebook qui est de faire de la course au clic. Et puis l'autre aspect important aussi, peut-être la prise de conscience, c'est de se dire qu'il n'y a pas que Facebook dans la vie. Donc les médias se disent aussi, investissons peut-être d'autres espaces, d'autres médias sociaux. Cultivons aussi peut-être davantage notre site web et faisons en sorte que de plus en plus nos internautes viennent directement sur notre site plutôt que passer par ces plateformes. Donc on voit en tout cas une forme de prise de distance par rapport à Facebook.
Nathalie Pignard-Chenel, prof de journalisme numérique à l'Université de Neuchâtel. Ce qu'elle nous dit, c'est que dans le fond, Antoine, les journalistes doivent revoir leur façon de travailler. Les médias doivent imaginer de nouvelles manières de fonctionner.
Oui, c'est vraiment ça. Mais le problème, c'est que c'est là que ça va être le plus compliqué. Difficile, comme dans d'autres secteurs, d'encaisser des changements massifs de fond et très rapides. Ceci dit, quand c'est la démocratie qui est en jeu, il me semble quand même qu'on peut faire un petit effort, s'il vous plaît. En revanche, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi. Prenez par exemple le quotidien Le Temps. Il s'est doté d'une Digital Factory, une usine numérique composée de spécialistes qui épaulent les journalistes en matière de vidéos, de réseaux sociaux, de podcasts ou de marketing. Et là, il faut faire super gaffe, explique le rédacteur en chef du numérique Gaël Hurliman, parce que là, c'est la crédibilité éditoriale d'un titre comme Le Temps qui est en jeu.
Tout à fait. Et ça, on en est très très conscient. C'est pour ça qu'on a, avant même d'engager le commercial, avant de développer les aspects commerciaux, on a réfléchi à une charte des partenariats qui décrit très clairement et de manière très transparente pour l'auditeur, le spectateur, le lecteur, ce qu'est le partenaire et dans quel cadre cela s'insère. Il peut avoir accès en tout temps à cette charte et au regard de chaque article, chaque contenu, il y a un point d'interrogation qui va définir le type du partenariat. Et c'est pour ça qu'on est assez à l'aise à se dire à nouveaux formats correspondent de nouveaux modèles économiques et on ne peut pas rester sur l'idée que quelqu'un achète juste des millimètres dans un journal papier. Ça marche sur le papier, ça ne marchera pas évidemment en ligne. Et là, là-dessus, nous, on est extrêmement fermes.
En conclusion, Antoine, quoi d'autre dans ces tendances médiatiques 2019?
Ouh là, il y en a des paquets, Pierre-Philippe Cadère. Hein. Plus de thématiques bien-être, bien-vivre, la coopération entre différents médias, l'actu local, hyper-local, personnalisé, les assistants vocaux. Je vais pas tout vous balancer pêle-mêle. Peut-être juste vous renvoyer vers le cahier tendance automne-hiver.
Ah oui.
J'adore les Français. Le cahier tendance automne-hiver des Français de Meta Média, meta-media.fr. Ils parlent même de la RTS, c'est dire s'ils ont du goût. Oui. Et puis, if you do speak English, and I know you do speak English, Pierre-Philippe, ou que vous avez un navigateur avec traduction automatique, jetez un œil à niemannlab.org, niemannlab.org. C'est la fondation Niemann pour le journalisme à l'université de Harvard aux États-Unis. Moi, je retiendrai trois mots de tout ça pour les médias en 2019. Vérité, responsabilité, crédibilité. On s'intéresse, s'il vous plaît, un peu moins au format des vidéos sur mobile et un peu plus au cœur de notre métier.
Merci Antoine, on vous retrouve prochainement samedi 9h10 sur la première pour une nouvelle édition de Médialogue. Et on revient vers vous, Didier Rueff. Vous avez écouté attentivement Antoine Drou. Je vois que vous êtes vous aussi présent sur Facebook. Est-ce que vous avez bien lu les conditions générales d'utilisation de Facebook ?
Non, jamais. Jamais, parce que c'est illisible, mais je ne suis pour l'instant pas sur Instagram, parce qu'Instagram me pose de grandes questions, en ce sens qu'il faut, on fait une session des photos, en fait.
C'est le cas
aussi
sur Facebook.
Personne ne s'en rend compte. Mais c'est pour ça que j'en mets jamais. Il n'y a aucune photo sur Facebook. Ce sont tous des liens. Les liens reviennent sur mon site, sur mes deux sites. Il y a véritablement très très peu de photos que j'abreuve directement sur Facebook. Mais aujourd'hui, tous les photographes sont sur Instagram. Tout le monde est sur Instagram. Il va falloir que j'y passe d'une manière ou d'une autre parce qu'apparemment, ça devient le code d'accès aux nouvelles générations d'éditeurs. Parce qu'avant, vous parliez de la presse et tout. Mmh. Il s'avère que le nerf de la guerre, c'est qui vous connaissez dans ce milieu, mais c'est surtout aussi qui va vous donner de l'argent pour faire des reportages. Parce que ce qu'on me dit toujours, c'est qu'un reportage, ça coûte vite cher. Aller à l'autre bout du monde, pouvoir y travailler, ramener les sujets, le faire dans de bonnes conditions, c'est onéreux. Et aujourd'hui, ça devient difficile en tant qu'indépendant de financer ces projets.
Vous insistez beaucoup sur votre indépendance, car vous l'êtes depuis 30 ans maintenant, Didier Rueff. Depuis toujours, en réalité, oui, effectivement.
Peut-être que je n'ai jamais non plus indépendant, mais je suis indépendant, oui.
En tout cas, oui. De quelle façon aujourd'hui, vous considérez l'évolution de votre travail aujourd'hui? On voit de plus en plus de photographes qui sont de plus en plus indépendants ou font appel au financement participatif sur Internet, auto-éditent leurs livres, les emmènent dans le coffre de leur voiture et parcourent des kilomètres, des centaines de kilomètres pour vendre leurs livres et faire connaître leur travail. Où vous situez-vous aujourd'hui, Didier Rueff ?
Mais moi, je pense que c'est le reflet de l'appauvrissement total des photographes. Tout simplement, nous n'y arrivons plus. L'ensemble il y a très peu de photographes qui arrivent aujourd'hui à fonctionner de manière véritablement décente et qui ne font que leur métier de photographe. Tous, nous inventons des variantes. On va enseigner des workshops. On fait des livres. On fait des expositions. On essaye multi une chose. On fait du commercial, du annual report. On anime des conférences. Pourquoi ? Parce que les médias ne nous soutiennent plus. C'est ça la tristesse. Aujourd'hui, il n'y a plus de journaux qui ont les reins suffisamment solides pour dire on y va, on y croit, on fait ce sujet, il est important, on va le développer, on va le mettre en forme longue et étendue, on va s'étendre sur le sujet parce qu'on y croit. C'est rarissime.
Une interview d'un des directeurs de la rédaction du Washington Post, récemment publiée par l'agence Reuters, racontait le formidable miracle économique de ce journal, qui se porte très très bien, qui gagne des abonnés, jour après jour, année après année. L'explication était simple, et là on rejoint totalement ce que nous disait Antoine Drou tout à l'heure, c'est un retour sur la qualité du travail, on parie sur la qualité, et on gagnera des abonnés. Ce message-là, il va quand même finir par traverser l'Atlantique, il sera entendu. Est-ce que vous voyez peut-être une embellie possible pour votre travail de photographe?
Bon, ce qu'il faut aussi dire, c'est que le propriétaire du Washington Post, c'est Jeff Bezos d'Amazon. Celui qui tue le marché mondial s'est offert
pour redonner
un jouet.
À Paul. Ouais.
Voilà. Il prend d'un côté pour redonner. C'est vrai que ce journal a une aura fantastique. Il s'avère que il parle d'abord en anglais. C'est quand même une langue globale, universelle. Le New York Times fonctionne aussi très bien. Mais je sais pour avoir parlé un peu avec différentes rédactions francophones ou germanophones, c'est plus difficile. C'est plus difficile en français, en anglais, voire en italien. Le modèle du Washington Post est assez unique. Et moi, j'espère, bien sûr, mais aujourd'hui, il faut savoir que sur l'Internet, très peu de gens gagnent de l'argent. Je veux dire, les reportages, moi, combien de fois on m'a dit tes photos, on va les mettre sur Internet et tout ceci, les publications ne sont pas payées, c'est une espèce de grand flux online dont on ne sait pas trop bien où ça va se perdre, tout ceci.
Est-ce que votre livre, c'est une façon, finalement, de faire votre travail de reporter photographe, mais sur le temps long, Didier Rueff?
Oui. Oui, bien sûr. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est de développer, c'est de sortir de l'instantané. C'est-à-dire que moi, j'ai un petit peu grandi avec l'école des Cartier-Bresson, des Doisneau, d'une photo. Puis j'ai découvert l'essai photographique, le Eugene Smith, tout ce genre d'approche à l'américaine, ce travail long. Et je trouve que c'est sur l'arc du temps qu'on peut développer à la fois une vision, un point de vue, une conscience et dire un petit peu qui l'on est et dire ce qu'on pense du monde. Et c'est ça que je trouve fascinant. Sinon, le livre, ben moi je suis un peu de la vieille école, j'aime le livre parce que le livre permet d'arrêter le temps d'une certaine manière et de le regarder. Je dis toujours aux jeunes photographes, regardez des livres, fuyez l'internet, fuyez l'écran, mais prenez un livre dans vos mains, regardez ce que le ou la photographe ont voulu dire, pourquoi l'image était à cet endroit, comment se fait-il qu'elle précède celle d'avant, etc. Quel est le flux, quelle est son intention, c'est dans un livre que tout se dit.
Homo Helveticus, c'est le titre de votre dernier ouvrage, Didier Rueff, publié chez Tilschap Éditions. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Je précise
Merci
pour celles et ceux qui nous ont écoutés qu'on peut voir votre photographie sur votre site internet didierrueff.ch. Merci beaucoup et à très bientôt.
.com, didierrueff.com.
.com, vous êtes worldwide. Merci.
Moi, je suis worldwide.